la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8, MHz, Onde Femmes, Radio Zone. J'ai changé de casquette, j'ai changé de côté. Je suis maintenant du côté de la technique et du micro, Viviane Gonick, sur 93.8 MHz. Comme tous les mercredis à partir de 18h30, c'est la pleine lune dans vos oreilles. Malgré le beau soleil, la chaleur qui donne envie de se prélasser dans l'ombre, au soleil et dans l'herbe, mais pourquoi pas amener son transistor, 93.8, c'est la pleine lune. Et bien sûr, vous pouvez nous téléphoner au 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. Vous pouvez aussi nous écrire. Dans quelques instants, au programme Les Informels, c'est les nouvelles de la pleine lune, suivies des coups de cœur de Marjolaine. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Onde Femmes, Radio Zone, nos nouvelles. En Angleterre va s'ouvrir le procès de quatre femmes pacifistes accusées de conspirer contre la sécurité de l'État. Il s'agit de Lotta Cronlid, d'Angie Zelter, de Johanna Wilson et d'Andrea Needham, qui se sont introduites le 29 janvier de cette année sur une base militaire et ont détruit à coups de marteau un avion de combat du type Hawk, prêt à être vendu à l'Indonésie, le pays qui utilisera cet avion et qui les utilise de plus en plus depuis plusieurs années pour mater les guérillas dans le Timor oriental. Les producteurs de l'avion Hawk, comme ça se fait d'ailleurs en Suisse avec les avions Pilatus, prétendent que cet avion ne sert bien sûr qu'aux exercices. Mais de nombreux témoins ont apporté des preuves que la population du Timor oriental est bombardée avec ce type d'avion. C'est donc en solidarité avec ces guérillas que ces quatre femmes se sont attaquées avec leur marteau à cet avion qui faisait partie d'un lot de 24 avions à attendre d'être livrés à l'Indonésie. Elles ont complètement détruit l'avion avec leur petit marteau. On estime à plusieurs millions les coûts de l'opération. En tout cas, une bonne idée, pourquoi pas faire la même chose avec les Pilatus. J'aimerais encore vous signaler qu'un comité de soutien s'est créé pour soutenir ces femmes et qu'une liste de signatures va être envoyée en Angleterre pour apporter notre soutien à ces quatre femmes. Vous pouvez vous informer en nous téléphonant au 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. L'asile américain pour une jeune Togolaise menacée d'excision. Fazuya Kazinga a gagné. À force de courage et de détermination, cette jeune Togolaise de 19 ans a obtenu l'asile aux États-Unis. Le Conseil de l'immigration a reconnu le 13 juin que la protection des autorités américaines devait lui être accordée face à la menace d'excision dont elle était l'objet. Sa victoire est certes isolée au regard des pesanteurs sociales et coutumières dans les pays où cette pratique rituelle est toujours infligée, mais elle n'en est pas moins symbolique. Promise à un mariage polygame, la jeune femme n'a pas voulu partager le sort de plus de 80 millions de femmes à travers le monde. En France, le 12 juin, également, le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'expulsion d'une Guinéenne en raison du risque d'excision qui pesait sur ses enfants. Fazia a donc fui le Togo pour arriver aux États-Unis au cours de l'hiver 1994. À l'époque, le juge de l'immigration avait estimé qu'une telle menace ne constituait pas un motif suffisant pour obtenir l'asile aux États-Unis. Les demandeurs d'asile doivent prouver qu'ils sont dans leur pays d'origine sous la menace d'une persécution en raison de leur race, religion, nationalité ou opinions politiques, et pas en raison de leur sexe. Pendant près d'un an, Fazulya Kasinga a donc été transférée de prison en prison, mais elle a tenu bon. Avec l'aide de son avocate, elle a reporté l'affaire devant les tribunaux. Dans ce jugement, le Conseil de l'immigration cite un rapport sur l'excision en Afrique et conclut, je cite, « Les femmes ont peu de recours légaux, peuvent encourir des menaces contre leur liberté, des actes de violence physique ou un ostracisme social lorsqu'elles refusent de subir cette pratique traditionnelle ou tentent de protéger leur enfant du sexe féminin. » Ce verdict, le premier à reconnaître que l'excision est une persécution, constitue donc un précédent dont devront tenir compte les 179 juges de l'immigration des États-Unis. Alerté par le cas de Kasinga, le Sénat a adopté d'ailleurs, le mois dernier, un amendement au projet de loi sur l'immigration, faisant de l'excision un crime fédéral passible d'amende et d'une peine de 5 ans de prison. C'est donc l'exemple du Canada qui a favorisé la prise de conscience des législateurs, puisqu'en 1993, Ottawa a décidé qu'une menace de mutilation génitale constituait une raison suffisante pour bénéficier d'un statut de réfugié. Bien sûr, à l'époque, on avait pensé, et les Cassandres avaient agité le spectre d'une immigration massive de femmes qui fuyaient ces pratiques, mais bien sûr, ça ne s'est pas vérifié, puisque les trois quarts des personnes qui subissent l'excision sont des fillettes qui, malheureusement, n'ont peu de choses, ont de la peine à se révolter. Russie, élection en Russie, Eltsine a ratissé large dans un soutien souvent forcé, surtout en ce qui concerne la Tchétchénie. Ainsi, on a pu voir une étrange apparition il y a 2 semaines sur les écrans de la télévision russe. Alla Doudaïev, la veuve du leader tchétchène assassiné, est apparue le visage figé pour lancer un bref appel en faveur de Boris Eltsine. Ce que les spectateurs russes ignoraient, c'est qu'Alla Doudaïev avait été conduite dans les studios de la télévision par les agents du FSB, le nouveau KGB, arrêtée en mai à l'aéroport de Nalchik alors qu'elle tentait de fuir en Turquie. Elle a été transférée à Moscou où elle est depuis assignée à résidence dans un isolement total et un lieu tenu secret. Aux États-Unis, Bill Clinton et Bob Dole ont un ennemi commun, l'État-providence. La défense des valeurs morales et familiales s'affirme comme un thème majeur de la campagne présidentielle américaine. L'aide sociale, le fameux welfare, est au cœur des débats. Mais on parlera aussi d'avortement, de multiplication des grossesses chez les adolescentes et de l'homosexualité, ainsi que de la montée de la criminalité juvénile. Tout cela sont des sujets sur lesquels s'affrontent Bill Clinton et son adversaire Bob Dole, avec très peu de différence, en tout cas dans le contenu du discours. Bill Clinton a ainsi apporté son soutien à l'expérience du Wisconsin, révolutionnaire d'après lui, qui prévoit une suppression de l'aide aux familles avec enfants à charge. Ce programme du welfare dont bénéficient 13 millions d'Américains. À l'avenir, ceux qui sont aidés seront obligés de travailler dès lors que leur enfant aurait atteint l'âge de 3 mois, quitte à se voir offrir des emplois communautaires pendant une période maximale de 5 ans. De nombreuses associations ont prédit que la génération de ce système précipiterait des millions de femmes et d'enfants dans la pauvreté. Le welfare est ainsi devenu l'épouvantail du débat politique. À écouter Bob Dole, tous les maux de la société américaine sont liés à la faillite de l'État-providence. Avec certaines nuances, mais très peu, Bill Clinton a adopté des accents tout aussi conservateurs que les républicains, qu'il s'agisse de l'obligation de se mettre au travail en échange de l'aide de l'État ou de mesures pour lutter contre la multiplication des grossesses chez les adolescentes qui deviennent le spectre agité par tous comme étant un des problèmes numéro un aux États-Unis, alors qu'une récente étude vient de montrer qu'il ne s'agissait en fait que de quelques milliers de cas et que la plupart d'eux étaient dus en fait à une violence sexuelle à l'intérieur de la famille. « Le Rwanda a décidé de libérer 2000 détenus mineurs. Les autorités rwandaises ont décidé dimanche 16 juin, à l'occasion de la journée de l'enfant africain, de libérer quelques 2000 mineurs incarcérés dans les prisons rwandaises, selon Radio France Internationale. Comme plus de 70 000 autres compatriotes, ils sont soupçonnés d'avoir participé au génocide de 1994 et croupissent depuis des mois dans des centres de détention surpeuplés. Il s'agit la plupart du temps de jeunes garçons d'à peine 15 ans qui auraient tué des Tutsis. En tout cas, c'est ce qu'on leur reproche. L'Allemagne a connu sa plus grande manifestation syndicale depuis 1945. Cette manifestation du samedi 15 juin a réuni plus de 500 000 personnes dans les rues de Bonn. Elle marque un tournant dans l'histoire sociale du pays. C'est la première fois depuis 1945 que les syndicats allemands mobilisent une telle foule d'adhérents et de sympathisants venus de tous les pays pour protester contre les projets d'austérité du gouvernement du chancelier Helmut Kohl. C'est la clé d'orgue d'une série de manifestations qui a vu entre autres une 50 000 personnes des personnels de la vente, en principe en grande majorité des femmes, se mobiliser contre l'ouverture nocturne des magasins. En France, Chirac est contre la parité. Jacques Chirac, qui n'a jamais adhéré à l'idée d'instituer des quotas pour imposer un plus grand nombre de femmes dans la vie politique, n'a pas changé d'avis. Le chef de l'État juge qu'une telle mesure ne serait pas conforme à l'esprit de notre système démocratique et qu'elle poserait des problèmes pratiques, notamment celui du nombre insuffisant de femmes candidates, comme l'a démontré les dernières élections municipales. En gros, on ne peut pas instaurer la parité, il n'y a pas de femmes. Mieux vaut commencer, dit-il, par appliquer les lois existantes concernant l'égalité des salaires à travail égal entre hommes et femmes, qui ne le sont toujours pas. On est d'accord avec lui, mais ça n'empêche pas. On pourrait faire mieux. En France, les groupes anti-avortement soignent leur look et ont converti une apprentie mannequin qui fait moins ringard. C'est la starlette anti-avortement. Dans les commandos enchaînés sur les plateaux de télé, on ne voit plus qu'elle. Noelia Garcia, apprentie mannequin, sexapile ravageur, est devenue la vitrine médiatique du mouvement anti-avortement qui, comme ça, essaye de redorer un peu son image de marque, surtout auprès des jeunes. À Strasbourg, un baiser dévorant, si on peut dire. Une jeune femme a sectionné un bout de la langue d'un homme qui tentait de l'embrasser de force dans la banlieue de Strasbourg. L'homme est allé à l'hôpital se faire soigner. Un fragment de sa langue d'environ 2 cm a été découvert sur le parking où dimanche vers 6h, il avait raccompagné la jeune femme âgée de 21 ans et puis lui avait imposé un baiser non désiré. La jeune femme s'est bien défendue. En France, les homosexuels, lesbiennes et gays se mobilisent en vue de la Gay Parade, Gay Pride. Ils demandent les droits sociaux, l'héritage, l'adoption. Les homosexuels passent à l'attaque. Plusieurs manifestations sont prévues pour marquer ces demandes. À Paris, le 22 juin, on attend plus de 100 000 manifestants pour la Lesbian and Gay Pride, la fierté homosexuelle qui pourrait être cette année l'une des plus grandes manifestations homosexuelles que l'Europe ait connue. Pour la première fois, des défilés ont eu lieu ou auront encore lieu dans une dizaine de villes de province, avec une revendication majeure, le contrat d'union sociale. Chez les gays comme chez les lesbiennes, des dissensions pourtant apparaissent. Certains appuient le droit à la différence et se refusent de singer les hétéros et accusent les autres partisans du droit à l'indifférence de vouloir banaliser l'homosexualité. Mais les deux tendances se retrouvent autour d'une même exigence, la reconnaissance légale des couples du même sexe, ce qui donnerait justement des droits sociaux, le droit à l'héritage, éventuellement à l'adoption. En tout cas, ils seraient considérés comme des concubins au même titre que hommes et femmes. Il faut savoir qu'en France, certaines mairies donnent ce contrat de concubinage aux homosexuels et certaines pas. Ça dépend donc de là où vous habitez, vous avez des droits ou vous n'en avez pas. Des marches donc sont organisées et se sont tenues et se tiennent dans une dizaine de villes françaises. C'est Nantes qui a ouvert le bal avec un défilé le 1er juin, ensuite Montpellier le 8 juin, Lille, Toulouse, Lyon, Bordeaux le 15 juin où plus de 10 000 homosexuels ont marché. Avant, Marseille et Rennes le 22, Cannes fermera la marche le 30 et à Paris, la manifestation a lieu donc le 22 juin. Elle partira à 13h de la place de l'Odéon. Il y a eu d'ailleurs, donc, comme je vous l'ai dit, le samedi, plusieurs manifestations d'homosexuels ont déjà eu lieu dans les rues de Toulouse, Lille, Lyon et Bordeaux à l'appel des nombreuses associations dont ACT UP, AIDE, le Centre Gay et Lesbien et les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Ils réclamaient, comme toujours, la reconnaissance sociale et l'administrative et la législation de ce fameux contrat d'union sociale. D'ailleurs, toujours sur la question des homosexuels, une campagne vient d'être lancée en Angleterre pour la question des homosexuels dans l'armée. Une lettre a été adressée, plutôt une lettre sous forme de carte postale que n'importe qui peut envoyer, et qui dit « Expliquez-nous, s'il vous plaît, pourquoi un homme gay ou une femme lesbienne peut appartenir au gouvernement de Sa Majesté, mais pas aux forces armées de Sa Majesté. » C'est donc le texte de la carte postale adressée à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires au ministre britannique de la Défense, à l'initiative de l'association Stonewall, l'un des principaux groupes homosexuels en Grande-Bretagne. En même temps, quatre anciens militaires, trois hommes et une femme, chassés de l'armée en raison de leur homosexualité, s'apprêtent à porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils font valoir, en effet, qu'il s'agit d'une discrimination caractérisée dans l'emploi, puisqu'en Grande-Bretagne, l'armée est de métier. Cette question semble d'ailleurs diviser même le parti travailliste. Lors d'un débat récent au Parlement sur l'interdiction des homosexuels dans l'armée, Tony Blair a décidé de laisser aux députés leur liberté de vote. Lui-même, bien sûr, s'est abstenu de parler de ce problème. En Suisse, toujours sur la question des homosexuels, eux sont partis en guerre contre le fait qu'ils sont exclus des dons de sang. En effet, actuellement, les homosexuels ne peuvent pas donner leur sang, ils sont considérés comme un groupe à risque pour le sida. Ils sont donc partis en lutte contre cette discrimination et le 26 juin, plusieurs actions sont prévues. Ils protesteront dans plusieurs villes contre une discrimination qui, selon eux, est en contradiction avec la stratégie officielle de prévention du sida qui n'est plus dirigée vers des groupes à risque mais sur des comportements à risque. Le Conseil fédéral devra se prononcer. D'ici la fin du mois, l'antenne gay suisse Pink Cross veut que la Croix-Rouge soit confrontée à ceux qu'elle discrimine. Donc, depuis l'apparition du sida, les homosexuels masculins sont exclus des dons de sang en tant que groupe à risque. Les gays ont donc appelé à investir pacifiquement les centres de dons à Bâle, Berne, Lucerne et Zurich en fin d'après-midi, le 26 juin. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire de Pink Cross. Les homosexuels sont soutenus par l'aide suisse contre le sida. Ils estiment que leur exclusion des dons du sang est contre-productive par rapport à la stratégie de prévention donc de l'Office fédéral de la santé qui se concentre sur les comportements à risque. À Genève, le groupe d'homosexuels dialogués se désolidarise de ces actions. Ils ne sont pas sur le fond, ils sont d'accord, c'est sur la forme, mais ils pensent que une mauvaise méthode est employée et que ce serait plutôt une négociation, le dialogue, qui devrait être mis en place plutôt que des manifestations plus ou moins musclées sur la place publique. En Suisse toujours, l'UDC part en guerre et veut économiser à tout prix dans le secteur des assurances sociales, sur le dos de qui, devinez, sur les vieux, les invalides, les chômeurs et les femmes pour changer. Le groupe de travail du parti de Blocher a planché sur une politique de consolidation. En tout cas, heureusement qu'on a enlevé la solidarité. La politique de solidarité a été mise au panier au profit d'une politique de consolidation. Quel beau passage! Donc, selon le vœu des Blochériens, il faut mettre à la poubelle, bien sûr, l'assurance maternité. Il ne faut pas exagérer. De même, à la retraite, l'AVS seulement pour les gens qui en ont vraiment besoin. Tous ceux qui ont travaillé avec des salaires élevés, pas d'AVS. Et puis, pour renflouer les caisses, bien sûr, on retarde l'âge de la retraite, 65 ans pour les femmes, et peut-être même 67 ans, qui sait. Quant aux rentiers vivant à l'étranger, leur rente serait adaptée au coût de la vie à l'étranger. Et puis les chômeurs, bien sûr, pendant un mois, ils ne toucheraient rien. Et ça peut continuer comme ça. Blocher a été très satisfait de ce programme. Il pense que c'est une base de départ intéressante pour fonder une véritable politique sociale. À Genève, nouvelle présidente du conseil municipal, c'est une jeune femme qui, selon elle, représente, avait trois atouts ou trois problèmes, femme, écologiste et mère de jeunes enfants. C'est donc la nouvelle présidente du conseil municipal, il s'agit de Caroline Dalève. Elle s'est introduite par ce discours, vous avez élu une représentante d'au moins trois minorités, les Verts, les maires, les femmes et les mères d'enfants en bas âge, des minorités qui n'ont pas toujours droit à une telle reconnaissance. Caroline Dalève est la première présidente écologiste du conseil municipal et la troisième femme à accéder à ce perchoir depuis que Genève a introduit le vote féminin en 61. Donc la minorité femme, mais l'autre minorité dont elle se réclame, c'est le fait d'être mère de jeunes enfants. Elle nous dit c'est vraiment difficile. Il y a de nombreux conseillers municipaux pères de jeunes enfants. Il n'en va pas de même pour les conseillères municipales. Contrairement à nos collègues masculins, on nous compte sur les doigts d'une seule main, nous qui acceptons de concilier vie familiale et contraintes parlementaires. Et Caroline Dalève de conclure en se demandant s'il faut en déduire que les femmes ont une perception plus juste de leurs limites ou si au contraire c'est la conséquence d'une répartition inégalitaire des tâches domestiques dans le couple. Elle a d'ailleurs remercié son mari qui, d'après elle, a beaucoup aidé en participant activement aux tâches du ménage. Disparition d'une grande dame du jazz, Ella Fitzgerald, celle qui a inventé le scat, est morte. Elle chantait le jazz avec un inépuisable optimisme, figure mythique du jazz. Elle est morte samedi à Los Angeles après une longue maladie. Elle avait subi d'ailleurs plusieurs opérations. Ella Fitzgerald, c'est vraiment la grande dame du jazz à tous les points de vue, comme chanteuse, et puis elle était assez là, elle pesait son poids, si on peut dire. Née en 1918, orpheline, elle est vraiment partie dans une vie difficile, mais elle a toujours voulu chanter. Elle se présente à un tournoi d'amateurs, elle a 16 ans, et elle gagne. Chick Webb, grand batteur, chef d'orchestre de talent langage, c'est les débuts de la gloire, ses premiers disques, et ensuite elle introduira cette manière de chanter, ce scat extraordinaire. Ella Fitzgerald est donc partie, elle avait 80 ans. Et puis pour terminer, nos chapeaux du cochon sexiste. Eh bien, nous les avons distribués à des organes de presse. Premier chapeau sexiste pour le Washington Post, qui vient de publier une attaque en règle contre les femmes, les fameuses femmes professionnelles qui se baladent en basket et en petit tailleur. Le grand quotidien américain a osé donc critiquer une habitude de plus en plus répandue dans la capitale fédérale, le port de tennis avec chaussettes pour les femmes qui travaillent, employées de bureau, cadres, avocates, qui complètent leur strict tailleur jupe droite. Lorsque les Américaines font les choses, elles les font bien. Ce n'est pas des petits tennis, c'est des bonnes chaussures, des vrais Reebok, aérodynamiques, ça marche bien. Arrêtez, dit le journaliste, la chaussure de sport sont pour le sport, pas pour aller au bureau, et puis c'est moche. Pour lui, pour le Washington Post, c'est à cause de la grande grève des transports en commun en 80 que les femmes ont décidé de mettre ces chaussures plus confortables. Confrontées au fait de devoir faire des kilomètres à pied, elles ont compris qu'avoir des, elles ont mis des tennis aux pieds et des escarpins dans leur sac et puis arrivées au bureau, elles changent. Et puis en fait, elles ont remarqué que c'était bien plus commode et cette habitude est restée. Le résultat est moche, d'après le journaliste. Dans une ville, dit-il, où les hommes sont tétanisés par le politiquement correct et le spectre du harcèlement sexuel et qui marchent les yeux baissés de peur de voir de poser le regard sur une femme, qu'est-ce qu'ils voient ? Eh bien, des grosses grolles, des gros tennis. C'est moche, dit-il, c'est pas féminin. Cet article a bien sûr soulevé une multitude de réactions. Beaucoup de femmes ont été scandalisées, voire offensées qu'on puisse leur demander de faire de pareilles concessions à la mode. Finalement, être confortable, c'est quand même le principal. Et puis, autre cochon, aussi pour un journal, c'est le Ribmobou, l'hebdomadaire de l'organisation nationaliste corse, la Concolta, proche du FLNC, qui, face à la manifestation appelée par les femmes samedi dernier, n'a pas de mots assez doux pour les caractériser, je cite, « des pains bêches, des pourvoyeuses hystériques de tribunaux, des laiderons qui feraient mieux de faire le ménage ». On est bien quand on est femme en Corse. C'était les nouvelles sur la pleine lune. Dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques rendez-vous. Jérusalem, la justice près d'une paix véritable. C'est une conférence, film, débat avec M. Elias Davidson, spécialiste en droit international, et le Dr Saleh Abdeljawad, professeur à l'université de Bir Zaoud. Ça se passe le jeudi 20 juin à 20h à l'Uni 3, c'est donc la nouvelle Uni, à boulevard du Mail et boulevard Karl Vogt, à la salle 0290. Cette conférence, Justice, prix d'une paix véritable, suivie d'une vidéo qui s'intitule Jérusalem, une occupation gravée dans la pierre, vidéo produite par une coalition de différentes ONG et réalisée par Marty Rosenbluth. Cette conférence a été organisée à l'initiative de l'organisation Une Terre de Peuple avec des soutiens, l'Association Suisse Palestine, les étudiants pour Sarajevo, la Conférence universitaire des associations d'étudiants, etc., etc., ainsi que des personnalités telles que Georges Aldas ou Erika de Berpoli. Je vous rappelle, cette conférence « Jérusalem, la justice, prix d'une paix véritable » se tiendra le jeudi 20 juin à 20h, Uni 3, boulevard Karl Vogt, à Genève, à la salle 0290. Et puis vous rappelez que ce week-end aura lieu une grande manifestation à Lyon, organisée pour répondre à la réunion du G7, les 7 grandes nations industrialisées qui vont être à Lyon pendant une semaine. Depuis une semaine, à Lyon se tiennent déjà des discussions et des forums contre le néolibéralisme pour la néolibération. Cette manifestation est organisée donc par différentes associations de toute l'Europe qui vont se retrouver à Lyon. Un départ est organisé à Genève le samedi à midi à la Place Neuve. Voilà, c'est fini pour les nouvelles. Dans quelques instants, Marjolaine vous ouvre son cœur.